Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de discussions sur la croissance spirituelle du chrétien. Et la parabole bien connue du semeur nous servira de référence.
À présent, Sandra va lire cette parabole qui raconte une histoire courte illustrant des vérités spirituelles fort importantes. Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9.
Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit : Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
Nous sommes contents d'accueillir de nouveau Étienne sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Il va nous aider à mieux comprendre le sens de cette parabole. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Étienne, nous avons annoncé le sujet de nos discussions, qui est la croissance spirituelle. Mais quel rapport existe-t-il entre ce thème et la parabole que nous venons de lire?
La leçon essentielle qu'il faut retenir de cette parabole est celle-ci. Pour faire des progrès dans la vie chrétienne, pour croître dans la foi, il faut écouter et mettre en pratique l'enseignement de Jésus et de la Bible.
Expliquez-nous la façon dont vous êtes arrivé à cette conclusion.
Au début de la parabole, nous lisons « un semeur sorti pour semer ». Que représentent donc ces détails? Jésus avait déjà passé beaucoup de temps à enseigner les foules venues l'écouter. Et dans cette parabole, il se compare à un semeur, et la semence représente son enseignement, le message, la révélation de Dieu qu'il est venu dévoiler aux hommes. Cependant, Yann, j'ai une question à vous poser.
Je vous en prie, allez-y.
Dans quel but un semeur sème-t-il? En fait, pourquoi semer?
Normalement, ce qui sème espère obtenir une récolte.
Oui, et il en est de même sur le plan spirituel. Il en est de même pour Jésus. Il n'est pas venu pour annoncer un message de la part de Dieu simplement pour se divertir, mais afin de voir une récolte fructifier, afin de trouver du fruit en abondance. Bien sûr, toute graine qui tombe dans le sol ne produit pas forcément un fruit du jour au lendemain. Dans un premier temps, la graine doit germer, ensuite elle doit pousser et grandir, pour enfin, lorsque la saison se termine, produire des fruits et une semence.
Mais cette parabole évoque certains incidents qui peuvent intervenir, risquant d'empêcher une graine de produire son fruit. Par exemple, des oiseaux risquent de la manger avant même qu'elle ne germe, ou bien une forte chaleur ou un manque d'eau, ou encore la présence de mauvais air peuvent empêcher que la plante qu'elle produit ne se développe.
C'est exact, Yann. Et sur le plan spirituel, cette illustration évoque qu'il existe des circonstances, des événements, pouvant intervenir dans la vie du chrétien, risquant de ralentir ou d'entraver sa croissance spirituelle. Ainsi, par le biais de cette parabole, Jésus désire nous sensibiliser à ces choses et nous exhorter sur la façon de surmonter nos difficultés, nos épreuves, afin de produire un fruit à la gloire de Dieu.
Étienne, nous avons beaucoup parlé du besoin de produire du fruit sur le plan spirituel, mais que cela signifie-t-il exactement?
Tout simplement d'avoir une vie transformée à l'image de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous expliquer cela davantage.
Je vous en prie.
Pouvez-vous lire, Yann, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 3, le verset 8, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude.
Ces paroles furent prononcées par le prophète Jean-Baptiste. Elles signifient que si nous mettons notre foi en un Dieu qui nous pardonne, nous devons prouver l'authenticité, la sincérité de notre foi par une vie transformée, par des changements de comportement. Jean-Baptiste a aussi donné quelques exemples concrets. En s'adressant aux collecteurs d'impôts, par exemple, il les incite à s'abstenir de toute malhonnêteté et démarches corrompues pour mener plutôt une vie intègre et droite. À présent, je voudrais, Yann, que vous lisiez un deuxième texte très connu qui parle du fruit que le chrétien doit produire. Il se trouve dans Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 23.
Le voici. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
Ce sont de très belles qualités qui devraient se voir dans nos vies et s'y développer. Si nous croissons spirituellement, alors ce fruit devient visible.
Toutes les fois que je lis cet extrait de la Bible, je revois Jésus lorsqu'il se trouvait parmi les hommes.
Oui, Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu et il portait ce fruit à la perfection. Et nous-mêmes, notre objectif spirituel devrait ainsi être défini, être renouvelé ou recréé à l'image de Jésus. L'apôtre Paul, en parlant de l'œuvre de l'Esprit, rappelle que si nos regards restent tournés vers Jésus, alors l'Esprit nous transformera en son image. Ainsi, si nous avons soif de croître spirituellement, nous devons apprendre à connaître Jésus et nous devons aspirer à devenir semblables à lui. Voilà le fruit que nous devons porter.
Mais Étienne, on peut se demander à quel point les chrétiens, dont moi-même, réussissent à porter ce fruit si merveilleux.
Oui, mais à travers cette parabole et l'enseignement de Jésus qui suit, nous parvenons à comprendre les raisons de cet état de choses ainsi que le remède à y apporter. Tout comme la parabole évoque les éléments qui dans la vie peuvent étouffer la croissance de graines et de jeunes pousses, il existe des circonstances qui peuvent étouffer, ralentir ou retarder notre croissance spirituelle. C'est pourquoi, durant cette série de discussions, nous aborderons ces problèmes un à un. Nous parlerons ainsi de l'activité de Satan, des tentations qui existent dans le monde, des soucis et des épreuves. Nous considérerons aussi les démarches nécessaires à accomplir afin de favoriser au mieux notre croissance spirituelle. Et nous comprendrons aussi l'importance de l'écoute de la parole de Dieu et de sa mise en pratique.
Merci Étienne pour ce premier regard sur cette parabole bien connue. Merci aussi pour le rappel qu'en tant que chrétien, nous sommes appelés à croître dans la foi et à produire un fruit qui honore Dieu. Nous ne devons pas nous contenter du parcours spirituel qui est le nôtre, mais nous devons avoir soif de Dieu, avoir le désir de toujours aller de l'avant, en écoutant et en cherchant à mettre en pratique l'enseignement de Jésus.
Oui, merci Yann et au revoir à tous.
Le moment est venu d'introduire notre courte méditation biblique. Dans la nouvelle série qui commence aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le sens des divers noms et titres attribués à celui qui demeure au centre des quatre évangiles.
Nicolas est parmi nous et le premier nom qu'il va étudier est certainement le plus connu, car il s'agit du nom de Jésus. Mais que signifie donc ce nom, Jésus?
Pourquoi Marie et Joseph ont-ils nommé leur bébé conçu par la puissance de l'Esprit, Jésus? Écoutons un récit trouvé dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 21.
Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Marie et Joseph ont donc donné le nom de Jésus à ce petit garçon parce qu'un ange envoyé de la part du Seigneur leur avait ordonné de le faire. Le texte lu révèle aussi la raison d'un tel choix. Le nom Jésus était étroitement lié à la mission que ce bébé, devenu adulte, devait accomplir. En effet, le nom Jésus signifie « Dieu sauve » et selon l'ange, Jésus allait devenir un sauveur. Plus précisément, il allait sauver son peuple de ses péchés. Or, ce détail est fort important. En fait, à l'époque, en Israël, beaucoup de gens attendaient l'arrivée d'un sauveur. Ils espéraient l'intervention d'un libérateur militaire et politique pour expulser l'occupant romain et rétablir la nation d'Israël en tant que puissance mondiale. Mais Dieu n'a pas envoyé un tel sauveur. L'Éternel avait en vue un tout autre problème, celui du péché. Le problème du péché est universel. Il concerne tout homme, toute femme, qu'ils en soient conscients ou non. Le péché, le mal que nous commettons, nous sépare de l'Éternel et nous destine à la mort éternelle. Or, le péché est à la racine de tous les maux et malheurs qui inondent notre monde, et c'est pour cette raison que l'Éternel, par amour, a envoyé un sauveur, Jésus, pour venir à bout de ce problème. Ainsi, Jésus, parce qu'il est le sauveur des hommes, nous libère de la condamnation qui pèse sur nous et des conséquences du péché. Jésus a obtenu le pardon de nos péchés. Il nous réconcilie avec Dieu et il nous donne l'espérance de la vie éternelle. Tout comme les Israélites, nous pouvons avoir certaines attentes ou idées préconçues concernant le Sauveur que nous aimerions rencontrer. Aimerions-nous qu'il nous délivre de la pauvreté, de la maladie, de l'insécurité, de l'injustice, que sais-je ? Jésus peut accomplir ces choses, il peut guérir, délivrer, mais il est surtout et d'abord venu pour nous sauver de nos péchés. Car en réalité, les péchés représentent le problème le plus fondamental, le problème le plus urgent, même si nous n'en sommes pas toujours conscients.
Merci Nicolas de nous avoir rappelé qu'en Jésus nous avons un Sauveur et de nous avoir expliqué en quoi ce salut consiste.
Nous vous encourageons, chers amis auditeurs et auditrices, à venir chercher auprès de Jésus le pardon et à trouver en lui une espérance vraie. La prochaine fois, Nicolas nous expliquera pourquoi Jésus est aussi appelé le Christ. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.